bien, bah alors bienvenue à tout le monde à cette séance de Bruxelles Sceptico Pop. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Thibaut Alexandre pour une conférence sur le thème du phénomène OVNI. C'est pas la première fois qu'il est parmi nous. Je pense que c'est un des premiers invités qu'on a réinvité en fait. Si je ne m'abuse, tu es le premier.
Ah bah.
Et donc, voilà, Thibaut Alexandre, il est un enquêteur du comité nord-est des groupes ufologiques, donc une organisation ufologique qui travaille dans le nord-est de la France. Et il est aussi astronome amateur, et je pense que tu as un club d'astronomie amateur, et il donne des conférences.
Un site d'astronomie.
Quoi ?
Et un site d'astronomie aussi.
Un site d'astronomie amateur, enfin, il fait, oui, c'est vrai, tu publies sur le sujet, où il donne des conférences sur... l'exploration spatiale, Mars, etc. Mais en parallèle à ça, donc, il s'intéresse au cas d'OVNI et à leur explication. Et donc aujourd'hui, il va nous proposer l'explication d'un cas, un cas d'halo lumineux. Et puis, de toute façon, c'est lui qui va nous le présenter. Donc un cas exceptionnel et il va voir comment est-ce qu'on peut l'expliquer ou pas.
Eh oui, bah, déjà, merci à tous d'être venus. Bonsoir. Et bonsoir aux auditeurs du balado. Faut pas les oublier quand même. Donc ce soir, je vais vous parler, comme le disait Jean-Michel, d'un phénomène exceptionnel qui s'est passé il y a un peu plus d'un an. Un an et deux mois aujourd'hui, le 29 septembre 2013, dans le sud de l'océan Indien. Donc voilà ce que les gens ont pu observer. Bon, voilà pour un titre sérieux. Éric Maillot, un autre grand sceptique des ovnis en France, m'avait suggéré un autre titre un peu plus rigolo. Puisque j'ai réussi à expliquer ce cas. Donc il m'avait dit, non mais allô quoi, allô. Ou comment j'ai réussi à faire comprendre à Nabila et ses amis réunionnais que les Américains ont des fusées capables d'enfumer le cygne, l'aigle ou le petit renard. Je vais vous expliquer comment ça marche. Parce que pour expliquer à Nabila, c'est long. Donc on va déjà se pencher sur les faits. On va redevenir un peu plus sérieux quand même. Donc, le 29 septembre 2013, vers 21h, heure de l'île de la Réunion et de l'île Maurice, vers 20h, à Madagascar, Mayotte, vers 19h, en Afrique du Sud, au Botswana, au Zimbabwe, Malawi, donc tous les petits pays du sud de l'Afrique, on a reçu de nombreux témoignages faisant part du passage dans le ciel d'un halo lumineux blanc et brillant, beaucoup plus gros que la Lune. 10 à 20 fois plus gros que la Lune. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer à l'œil nu ce que ça peut représenter, mais c'est énorme. Donc ce halo lumineux très étrange se déplaçait régulièrement, à vitesse constante, du sud vers le nord. Alors depuis les îles Mascareignes, donc l'île de la Réunion, l'île Maurice, dans le sud de l'océan Indien, ce halo lumineux était visible vers l'ouest. L'observation de ce halo lumineux a duré environ 10 minutes. Et sur ces 10 minutes, le halo lumineux qui s'est déplacé de l'horizon sud vers le nord n'a pas atteint l'horizon nord. En cours de route, il s'est éteint peu à peu. En quelques secondes, il s'est éteint. Caractère encore plus étrange, déjà un halo lumineux qui passe dans le ciel. C'est très étrange, mais en plus qui disparaît à un moment donné, sans qu'on sache pourquoi. Là, de nombreux témoins, on parle de milliers de témoins qui l'ont vu, là, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est ? Et c'est parfaitement normal de se demander, mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène ? Donc voilà pour les faits. On va pouvoir étudier ce qu'on peut déduire à ce stade de ces quelques informations. Donc on avait différentes heures d'après différents pays. Donc 21h l'île de la Réunion, 19h en Afrique du Sud, etc. Donc on peut déduire qu'un phénomène qui se ressemble d'un pays à l'autre, un même phénomène a été observé depuis une vaste aire géographique, puisque l'Afrique du Sud, l'île de la Réunion, il y a quand même 3-4 000 km de distance, c'est quand même pas rien. Mais cette différence d'horaire s'explique facilement, en fait. C'est pas qu'il y a eu plusieurs objets qui sont passés à différentes heures, c'est un même objet qui a été vu à la même heure, puisqu'en fait, les pays où ont été observés ce halo sont sur différents créneaux horaires. Par exemple, on sait qu'en Belgique, nous sommes au créneau horaire TU plus 1. On a une heure d'avance sur l'heure TU. Alors, qu'est-ce que l'heure TU ? C'est le temps universel. C'est l'heure de référence, l'heure du méridien de Greenwich. Donc en hiver, la Belgique, comme la France d'ailleurs, a une heure d'avance sur l'heure de Greenwich. Et en été, l'heure d'été, nous avons 2 heures. Nous sommes en TU plus 2. Il se trouve que l'île de la Réunion et l'île Maurice sont en TU plus 4. Madagascar et Mayotte en TU plus 3. On peut déjà remarquer que à l'île de la Réunion et l'île Maurice, le halo lumineux était vu vers 21h. Madagascar, Mayotte, vers 20h. Une heure de décalage, mais justement, il y a justement une heure de décalage entre l'île de la Réunion et Madagascar. Et l'Afrique australe en TU plus 2. Donc en fait, on retrouve toujours le même horaire, donc 17h TU, pour l'observation, quel que soit le pays. Donc ça veut dire, ce n'est pas plusieurs halos qui ont survolé différents pays, c'est un même phénomène, sur une très vaste aire géographique. Ce qui veut dire que si des pays répartis sur plusieurs milliers de kilomètres ont vu un seul phénomène, ce phénomène n'était pas près du sol. Sinon, la zone d'observation était très restreinte. Donc cela veut dire que le phénomène a eu lieu à très haute altitude, très certainement dans l'espace, à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la Terre. Et aussi, petit détail, on peut aussi en déduire que le phénomène est réel. Ce n'est pas un canular, par exemple. Il y a beaucoup trop de témoignages, beaucoup trop de photos. On a même une ou deux vidéos. Il y a vraiment trop de monde impliqué pour que ce soit un canular. De plus, on a de nombreux témoignages immédiatement, dans les minutes qui viennent, sur différents médias internet. Oh, je viens de voir passer quelque chose dans le ciel. Pour un canular, c'est trop bien organisé. Donc ça veut dire que le phénomène est réel. Comme de très nombreux cas en ufologie. Les canulars sont rares, heureusement. Il y en a, mais ils sont rares. Donc voilà ce qu'on peut déduire de ces premiers détails. On va pousser un peu plus loin l'analyse. On peut déjà rechercher, à partir de ces premiers éléments, rechercher une hypothèse explicative. Bon, à ce stade, il ne faut pas dire « je veux absolument trouver une solution à ce cas ». Il faut se dire « tiens, ce phénomène est étrange, y a-t-il une explication ?» On ne sait pas encore à ce stade s'il peut y avoir une explication ou pas pour ce halo. Mais on peut quand même émettre des hypothèses. Donc d'après l'aspect du halo et les témoignages, on peut supposer, bon là il faut s'y connaître un petit peu, on peut supposer qu'il s'agit d'un largage de carburant volontaire ou involontaire d'une fusée ou d'un missile. Pourquoi ? Eh bien, puisque ce halo ressemble à des phénomènes déjà observés de vidange, par exemple vidange de carburant de fusée, ou d'explosion de missiles dans l'espace. Ça s'est déjà vu, c'est rare, mais ça s'est déjà vu. Un autre élément qui peut coller à cette hypothèse explicative d'une fusée ou d'un missile, c'est que le déplacement est lent et régulier, comme le ferait un satellite autour de la Terre. Et on sait aussi que, puisque le phénomène a été vu sur une très grande zone géographique, qu'il était à très haute altitude, donc qu'il était très certainement dans l'espace, justement dans l'espace autour de la Terre, on trouve des satellites. Donc déjà, tous ces petits éléments concordent vers les hypothèses explicatives. Et en petite note de bas de page, justement, que j'ai mise en bas de page, c'est ce petit détail qui tue, c'est l'assombrissement du halo final, en toute fin de parcours. Je ne peux malheureusement pas vous montrer de vidéo du phénomène ce soir, mais ça se voit très bien sur une vidéo, mais on va le voir tout à l'heure sur quelques photos. Cet assombrissement du halo et sa disparition progressive, ça ressemble très fortement à l'entrée d'un satellite dans l'ombre de la Terre. Donc toujours ces petits éléments qui collent avec quelque chose qui ressemble à un phénomène satellitaire. Donc quand on parle de vidange de fusée, on ne doit pas être très loin. Ce n'est pas encore sûr. Ce n'est pas parce qu'on dit que ça ressemble à une vidange de fusée que c'en est dû. Maintenant, il va falloir vérifier. Maintenant que l'hypothèse est posée, il va falloir la vérifier. Sinon, ce serait trop facile de résoudre des cas. Sinon, on lit un cas, on dit « oh, bon, ça c'est un avion, voilà. Je ne cherche pas plus loin. » Ben non, justement, on va chercher plus loin. Pour convaincre Nabila et ses amis qu'ils ont bien vu quelque chose d'étrange, mais explicable. Donc voilà déjà quelques exemples de précédentes observations de halo vu du sol, mais dans l'espace. Par exemple, l'image du haut présente l'explosion, là c'est vraiment une explosion involontaire d'un étage de fusée russe. Évidemment, une fusée russe qui explose, c'est pas un pléonasme, mais presque. Donc, le 19 février 2007, au-dessus de l'Australie, voilà. La fusée, c'est le gros point jaune qui est au milieu. Et regardez tout autour, ça fait quand même un cercle nébuleux, comme un nuage circulaire. Donc, évidemment, comme l'étage de fusée est dans l'espace, le gaz se répand suivant une bulle. Ça ressemble un peu quand même à l'eau qu'on étudie ce soir. Autre exemple, regardez, l'image du dessous est vraiment assez ressemblante. Encore une belle sphère bulleuse. Là, c'est une bulle volontaire. C'est un tir de missile américain observé depuis Hawaï, donc en 2011. Tiré depuis la Californie vers l'atoll de Kwajalein, en plein milieu du Pacifique. Donc là, c'est arrivé presque sur orbite. Le missile a vidangé son carburant. Et qui dit vidange de carburant dit beaucoup de gaz dans l'espace. Et une bulle qui s'étend pendant quelques secondes. Voire quelques minutes suivant la quantité de carburant. Mais surtout, ce qui m'a orienté tout de suite, dès qu'on m'a envoyé les premières photos, ce qui m'a fait dire, tiens, ça c'est la vidange, c'est sûrement la vidange d'une fusée, c'est que j'ai moi-même observé, je ne sais pas, peut-être dans la salle, peut-être certains l'ont vu il y a quelques années, le 18 octobre 2009, il faut être précis quand même, donc les Américains avaient lancé une fusée Atlas V, pour lancer un satellite de météo militaire, mais comme la fusée est trop puissante, ils avaient chargé la fusée en carburant, mais ils s'étaient dit, comme on a trop de carburant, on va justement profiter de ce trop de carburant pour faire une petite expérience de vidange de carburant pour allumer une dernière fois l'étage de fusée pour le propulser dans l'espace au lieu de le laisser sur orbite terrestre. Et donc on a été quelques dizaines seulement en France à savoir que le phénomène allait avoir lieu, puisque tous les calculs disaient une heure et demie après le tir, la fusée doit vidanger son carburant au-dessus de l'Afrique et ensuite passer au-dessus de l'Europe. Et comme ça prenait quelques minutes, évidemment, on savait qu'il allait y avoir une grosse bulle très lumineuse qui allait passer au-dessus de l'Europe. Donc en France, on a dû être une cinquantaine à savoir que le phénomène allait avoir lieu. Donc tous ceux qui le savaient sont sortis à l'heure dite, le 19 octobre 2009, vers 19h TU, donc vers 21h heure locale en France ou en Belgique. Je l'ai vu passer dans les nuages, le seul endroit de la France où il y a eu des nuages c'était chez moi, mais bon, c'était comme ça. Par contre, des centaines de témoins qui n'ont rien vu, ça ne veut rien dire ce que je veux dire, qui ne savaient pas. Évidemment, beaucoup de monde en France ne savait pas que ça allait avoir lieu. Donc, les gens ont vu passer ça et tout de suite, dans les heures qui ont suivi sur Internet, « Oh, j'ai vu passer quelque chose dans le ciel, c'était incroyable, on aurait dit deux comètes qui suivaient. » Bah oui, mais en fait, l'explication était toute simple, on la savait d'avance, c'était une vidange de carburant. Donc, voilà pourquoi, au vu des photos et des témoignages, le phénomène observé au-dessus du sud de l'océan Indien, le 29 septembre 2013, ressemble à une vidange de fusée. Maintenant que l'hypothèse est posée, on va la vérifier. Puisque si le halo correspond à un largage de carburant, alors ça nécessite quand même des conditions préalables. Il faut qu'un lancement de fusée ou de missile ait eu lieu dans les heures précédentes. Les largages de carburant ont lieu toujours juste après le lancement. Évidemment, s'il n'y a pas eu de lancement de fusée, il ne risque pas trop d'y avoir de vidange de carburant. Mais il faut aussi, évidemment, pléonasme, que la trajectoire de cette fusée corresponde à celle du halo. D'après les témoignages, on sait que le halo se déplaçait du sud vers le nord. Donc, si on trouve une fusée qui passait à l'heure dite du sud vers le nord, on a de grandes chances que ça soit ça. Il faut évidemment que les horaires correspondent. Par exemple, on peut avoir une fusée qui passe au-dessus de l'île de la Réunion, mais 5 heures avant, et qui n'y passe pas au moment de l'observation, donc là on peut éliminer l'hypothèse. Et grâce au petit détail qui tue de la fin avec l'assombrissement final, en théorie, la fusée ou le missile, on ne sait pas encore de quoi il s'agit à ce stade, doit pouvoir entrer dans l'ombre de la Terre en fin de trajectoire. Donc déjà, si on arrive à vérifier toutes ces hypothèses, c'est qu'on doit être bon. Sinon, bah, il suffit d'éliminer l'hypothèse et dire, bon, bah, j'ai mis cette hypothèse, ce n'est pas ça, est-ce qu'il y en a une autre ? Et puis si on n'a pas d'autre, bah, le phénomène sera classé inexpliqué. En attendant un jour, peut-être, de trouver une autre explication. Donc, eh ben, au boulot, on va vérifier petit à petit cette hypothèse. Alors déjà, première vérification assez facile, est-ce qu'il y a eu un lancement de fusée juste avant l'observation de ce soir-là ? Il suffit de se rendre sur quelques sites internet spécialisés dans les lancements de fusées. Alors j'utilise, je ne sais pas si on voit bien l'adresse qui est ici, le site spacelightnow.com. Donc, en date du 29 septembre 2013, bon, on ne voit pas l'année, mais bon, c'est 2013, je l'ai fait en 2013, le PowerPoint. Donc, on sait que ce jour-là, il y a eu deux lancements de fusées. Alors, un lancement de fusée ici, la Falcon 9, qui a lancé le satellite Cassiopée depuis la base de Vandenberg Air Force Base en Californie, juste au nord de Los Angeles. Et un deuxième lancement de fusée, un lancement de fusée Proton, tout là-haut, qui a lancé le satellite Astra 2E. Ah, déjà, deux lancements de fusée ce jour-là. L'hypothèse n'est pas validée encore à ce stade.
Il y a beaucoup comme ça de lancements par jour
bien... De lancements par jour, non. Il y en a, je veux dire, une moyenne de un lancement tous les trois jours. Bon, des fois, il y a deux lancements par jour, le calendrier fait que, mais des fois, on se retrouve... Là, on s'est retrouvé début novembre, pendant 15 jours, il y a peu un lancement de fusée sur Terre. Mais des fois, c'est... tous les jours, on a deux lancements. Enfin, après, tout dépend du calendrier, des lancements, de la météo, etc., etc. Mais bon, ce jour-là, il se trouve qu'il y a eu deux lancements de fusée. Donc déjà, deux chances de pouvoir valider l'hypothèse. Bon, malheureusement, on peut déjà éliminer un de ces deux lancements, puisqu'on a quand même l'heure des lancements. Regardez, en heure TU toujours. Souvenez-vous, l'heure TU, c'est l'heure GMT. Donc ici, la Falcon 9 à 16h GMT, donc 16h TU, ou le deuxième lancement à 21h38 TU. Bon, bah déjà, ce deuxième lancement à 21h38 TU, ça ne peut pas coller, puisque le phénomène a eu lieu à 17h. Ils ne vont pas vidanger le carburant d'une fusée dans l'espace si elle n'est pas encore lancée. C'est logique. Mais le lancement de la Falcon 9 semble intéressant, parce que regardez, 16h TU, l'observation a lieu à 17h TU, une heure avant. Il y a une heure de décalage. Donc ça veut dire que l'observation du halo lumineux s'est passée juste après le lancement, à un moment qui peut correspondre à une vidange de fusée. Eh bien, puisque cette piste est intéressante, on va creuser un petit peu. On va bien voir. Alors, ce lancement de Falcon 9 était un peu particulier. C'était le tout premier lancement de la version 1.1 de la fusée Falcon 9. Donc, c'est la première fusée privée au monde. C'est pas la NASA qui l'a construit, c'est pas une agence spatiale d'un gouvernement. C'est un privé, c'est Elon Musk de la société SpaceX qui, d'ici quelques années, veut révolutionner les lancements de fusées en faisant baisser les coûts. Donc, depuis quelques années, il travaille en collaboration avec la NASA pour des lancements peu chers de ravitaillement vers la Station Spatiale Internationale. Et comme les fusées marchent bien et que la société se développe, Falcon 9 a commencé à proposer des lancements à des gens privés. Donc, si des agences veulent lancer un satellite, au lieu de passer par une agence gouvernementale, comme par exemple l'ESA, la NASA, etc., eh bien, la société SpaceX veut concurrencer toutes ces agences. Donc, eh ben, justement, ce jour-là, le lancement de la Falcon 9, c'était le tout premier lancement commercial pour la société. Donc, évidemment, pour eux, il ne fallait pas qu'ils ratent. C'est quand même une belle promotion. Alors, comme c'était un lancement, entre guillemets, expérimental, ils faisaient des tests aussi. Ils profitaient de lancer des satellites, mais tout en faisant des tests. Et dans le programme de ce lancement, c'était marqué qu'il y avait une tentative de rallumage de l'étage de fusée après largage des charges utiles. Donc les charges utiles, c'est les satellites. Donc une fois ces satellites largués, le moteur de la fusée devait avoir encore assez de carburant pour se rallumer, pour montrer que la fusée pouvait à terme atteindre l'orbite géostationnaire. Bon, ce soir-là, l'orbite géostationnaire n'était pas visée, seulement l'orbite basse, mais justement SpaceX avait emmené beaucoup plus de carburant que prévu pour pouvoir montrer, regardez, on a quand même la fiabilité de pouvoir rallumer un moteur pour atteindre l'orbite géostationnaire. Donc, venez vers nous, parce que c'est quand même le marché le plus fructif chez les satellites, l'orbite géostationnaire. Donc, comme on l'a vu, ce lancement a eu lieu depuis Vandenberg, avec une inclinaison orbitale, donc l'inclinaison par rapport à l'équateur, de 80 degrés. Ah, déjà, petit détail, incliné de 80 degrés par rapport à l'équateur, c'est quasiment perpendiculaire à l'équateur. Donc ça veut dire que la fusée va du nord vers le sud ou du sud vers le nord. C'est bizarre, c'est un peu comme le halo lumineux. Enfin, moi, je ne dis rien, mais c'est déjà un petit indice. J'espère que ça va. Donc, première méthode pour vérifier si cette fusée passait bien au-dessus de la Réunion vers 21h, heure de la Réunion. Évidemment. Si on trouve que la fusée n'était pas au-dessus de la Réunion à l'heure de l'observation, mais par exemple au-dessus de la Chine ou au-dessus de l'Europe, bon, ben, on peut se dire, bon, ben, ça peut pas coller. Donc, la méthode est un peu expérimentale, il faut des petits logiciels. Donc, pour pouvoir vérifier que la fusée passe bien à l'heure dite, il faut récupérer ce qu'on appelle les éléments orbitaux. Donc en abrégé TLE, puisqu'en anglais ça veut dire Two Lines Element. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste du détail. Donc il faut récupérer les éléments orbitaux de l'étage de fusée Falcon 9, qui s'appelle, pour ceux qui sont amateurs de ça, Falcon 9 RB, Rocket Booster, au moment de l'observation. Une fois qu'on a ces éléments orbitaux, on peut vérifier à l'aide d'un logiciel calculer où était la fusée et dans quelle direction elle se déplaçait. Donc pour cela, j'utilise... Bon, j'ai pas le logiciel sur moi, je pourrais pas vous faire une démonstration ce soir. Logiciel SpaceTrack, qui est très bien. Non, pardon, JSATTrack. Je raconte n'importe quoi. Logiciel JSATTrack, SpaceTrack, c'est pour autre chose. Donc, en farfouillant sur Internet, on peut toujours trouver les petits éléments orbitaux qui nous intéressent. Donc voilà les éléments orbitaux de Falcon 9. Voilà. On les appelle les Two Lines Elements parce que tous les chiffres tiennent sur deux lignes. Voilà, je vous demande de les apprendre par cœur, mais les réciter à la fin. Non. Non, je vais pas vous détailler tout parce qu'il y a des trucs très incompréhensible comme l'argument du périhélie, l'argument du nœud ascendant, etc. La longitude, pardon, du nœud ascendant. Juste retenir que le 39271 qu'on voit ici veut dire qu'il s'agit du 39271e objet lancé sur orbite. Eh oui, en 50 ans, on a bien pollué l'orbite terrestre. Qu'il s'agit du 55e lancement de l'année 2013, donc 2013-055. Et ici, les éléments sont pris pour la date du 273e jour de l'année 2013. Donc 273e jour de l'année 2013, ça correspond au 30 septembre. Les éléments sont pris même pas 5 heures après le lancement du satellite. Donc les éléments sont fiables. Donc une fois qu'on a ces éléments, on peut, grâce à l'aide d'un logiciel, pas de tête, je vous rassure, calculer les bonnes petites trajectoires qui nous intéressent. Donc utilisons JSATTrack. On peut déjà vérifier que il s'agit du bon objet en regardant où était l'objet vers 16h TU. On sait que normalement, à 16h TU, la fusée a été lancée depuis le nord de Los Angeles. Bah regardez où est la position de l'objet. C'est le gros point jaune. Évidemment, on retrouve la Californie, sur la côte californienne, justement là où est la base de Vandenberg. Donc il s'agit bien du bon objet. Avec une inclinaison orbitale de 80 degrés. Regardez, les lignes ici, c'est des trajectoires. on voit bien que c'est presque perpendiculaire à l'équateur qui est ici. Donc on est sûr que c'est le bon objet. Donc on va pouvoir faire défiler grâce au logiciel le temps pour voir comment l'objet se déplace. Donc d'après le programme de vol, que je ne peux pas vous montrer ici, on sait que le largage des satellites a eu lieu 21 minutes après le lancement, donc à 16h21 TU. Où se trouvait l'objet à 16h21? Ah ben il se trouvait au-dessus de la Polynésie française, ici. Donc on voit qu'il a quand même fait du chemin en 21 minutes. Il se déplace vers le sud. Bon, très bien. Laissons défiler les minutes. 16h37 TU, donc encore quelques minutes plus tard, l'objet arrive au point le plus austral de son orbite, tout près du pôle sud. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, là il est descendu vers le sud, maintenant qu'il est au point le plus au sud, ben, il va finir par remonter. Et si on est malin, on peut même s'amuser à suivre les lignes de trajectoire pour essayer de deviner où il va passer quelques minutes plus tard. Regardez, il est parti d'ici, il est descendu, donc il va passer là, donc après il va remonter. Mais regardez cette ligne quelques minutes plus tard, donc 15-20 minutes plus tard, où est-ce qu'il va être? Du côté de Madagascar. Dis donc, ça serait pas la zone géographique où était observé le petit halo lumineux? Alors, 16h49 TU, on laisse défiler les minutes. Tiens, l'étage commence à être visible depuis les Mascareignes arrivant par le sud. Comment je sais qu'il commence à être visible depuis les Mascareignes alors qu'il est encore au large du pôle sud? Ben, c'est facile. En fait, tout le cercle qui est autour du point, c'est la zone de visibilité de l'objet. Donc ça veut dire que tous les gens qui étaient là ont dû commencer à voir l'objet dans le ciel. Détail intéressant, 16h49 TU, ça donne du 20h49 heure de la Réunion. Il s'agit de l'heure du début des observations à l'île de la Réunion. L'objet arrive par le sud. Le halo lumineux arrivé par le sud. Très intéressant. On va laisser défiler quelques minutes encore. Détail encore plus intéressant, à 17h01 TU, donc 21h01 heure de la Réunion, l'étage Falcon 9 entre complètement dans l'ombre de la Terre. Comment je le sais? Regardez toujours ce cercle de visibilité. On dirait un œuf d'ailleurs. Regardez sur cette carte. Ici on a une zone claire et ici une zone grisée. La zone grisée, c'est là où il fait nuit sur Terre à l'heure donnée. Ici, il fait encore jour. Eh bien, quand le cercle de visibilité d'un satellite entre entièrement dans la zone de nuit de la Terre, ça veut dire qu'il n'est plus éclairé par le Soleil. Et s'il n'est plus éclairé par le Soleil, il disparaît. Parce que les satellites ne disposent pas de phares. Ça ne sert à rien sur orbite d'avoir des phares pour signaler où on est. Donc ça veut dire qu'à 21h01, heure de la Réunion, l'objet, enfin le satellite, la fusée, rentre dans l'ombre de la Terre, n'est plus éclairé par le Soleil et disparaît à l'œil nu. Détail encore plus intéressant, c'est justement vers 21h, d'après tous les témoignages, à l'île de Réunion ou l'île Maurice, c'est l'heure de disparition du halo dans le ciel. Incroyable! Autre détail, donc, comme on voit que l'objet était à ce moment-là au-dessus de Madagascar, on sait que depuis l'île de la Réunion ou l'île Maurice, l'étage de fusée était visible vers l'ouest. Et bien justement, le halo lumineux était visible vers l'ouest. Tiens, encore un détail qui colle. Évidemment, la fusée, regardez, trajectoire sud-nord, avec une visibilité théorique de 12 minutes, très voisine de celle du halo. Si vous vous souvenez de tous les petits éléments que je vous ai rapportés tout à l'heure, les témoins rapportent que l'observation a duré environ 10 minutes. Là, on est à 12 minutes théoriques d'observation. Très intéressant. Autre détail intéressant, c'est que d'après ce cercle de visibilité, ce cercle de visibilité englobe quand même, non seulement l'île de la Réunion, l'île Maurice qui sont ici, Madagascar, Mayotte, où ont été rapportées des observations, mais aussi l'Afrique du Sud, les Autos, le Botswana, etc. Tous les pays qui sont concernés par l'observation du halo lumineux. Encore un élément qui colle. Donc, conclusion de cette première méthode de vérification, puisque il y a deux méthodes de vérification. Donc, d'après cette première méthode, on va dire assez simple, si on sait manipuler les logiciels de suivi de satellite. Donc, la simulation sur logiciel permet de retrouver vraiment tous les éléments de l'observation. L'horaire, la trajectoire, la zone d'observation, la durée d'observation et même le détail qui tue, le phénomène de disparition. On sait pourquoi le halo lumineux a disparu en plein ciel. C'est incroyable. Et on sait d'ailleurs que, ça a été confirmé deux jours plus tard, que SpaceX a procédé à un largage de carburant peu après le largage des charges utiles. Donc finalement, il y a quand même beaucoup d'éléments qui collent. Donc à ce stade, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que l'hypothèse explicative est validée. Mais si on est un vil sceptique... Ah, je vois quelqu'un là, au fond de la salle qui grimace en disant « vil sceptique ». Est-ce qu'on ne peut pas pousser la méthode d'analyse encore plus loin? Eh ben, si! Parce qu'il y a une autre méthode vraiment pour vérifier, là c'est la méthode qui tue, c'est qu'on a quand même quelques photographies, même pas mal de photographies du halo lumineux, surtout de la Réunion, je sais plus qui a pris les photos, mais alors ce photographe était génial. En fait, sur toutes les photos du halo lumineux, on voit les étoiles. Et quand on est capable d'identifier les étoiles, on sait... On sait dans quelle zone du ciel est concernée. Ça va servir. Parce que justement, quand on arrive à suivre sur les sites de suivi satellitaire, on arrive à reconstituer la trajectoire d'un satellite parmi les étoiles. Donc, si la trajectoire de la fusée Falcon 9 ce soir-là dans les étoiles colle parfaitement à celle du halo lumineux à la seconde près dans le temps, là c'est un sacré défi, ça veut dire que le halo lumineux passait là où passait la fusée, et donc il y a vraiment un lien de cause à effet. Donc pour Saint-Denis de la Réunion, on sait que la fusée, qui ne s'appelait pas encore Falcon 9 parce que c'était tout le premier jour, il l'avait appelé Objet B, mais bon, c'était une dénomination provisoire, passer dans le ciel entre 20h49 et 21h04. Donc avec une culmination à 21h01 à 5, presque 56 degrés de hauteur sur l'horizon ouest. Bon, ça c'est un détail. Ça va peut-être nous servir. Et donc quand on clique, je vais revenir sur la diapo d'avant. Donc là, le site utilisé, c'est un site internet gratuit. Ça, c'est merveilleux parce que maintenant, en ufologie, on a plein de sites internet, des logiciels de calcul gratuits. Il faut juste apprendre à s'en servir, mais c'est gratuit. Donc, on peut quand même résoudre des affaires très étranges, entre guillemets, assez facilement et pour pas cher. Donc, sur Colsky, qui est utilisé ici, colsky.com, site génial, quand on clique sur un objet, un satellite, on a toujours des petites options. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais sous les noms des satellites, on a ici par exemple l'option Star Chart. Ça nous permet de voir la trajectoire du satellite parmi les étoiles. Donc la trajectoire de la fusée Falcon 9, vue depuis Saint-Denis de la Réunion, ce soir-là, c'était ici. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup d'astronomes dans la salle, mais pour les astronomes amateurs de l'hémisphère nord, ils peuvent quand même reconnaître quelques constellations qu'on voit dans notre ciel. Je vais vous montrer. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le ciel, ici nous avons les constellations du ciel d'été avec le Cygne, la Lyre, l'Aigle, ici le Scorpion, le Sagittaire, l'Ophiuchus, et ici on a des constellations que nous on ne connaît pas européens beaucoup puisque ce sont des constellations visibles que depuis l'hémisphère sud. Mais toute cette zone qui est au nord, elle est connue, ici c'est Pégase, etc., etc. Donc ça veut dire que la fusée, vue depuis la Réunion, traverser des constellations de l'hémisphère sud, passer tout près du Scorpion, traverser le Sagittaire, l'Aigle, remonter vers la petite constellation ici de la Flèche, du Petit Renard, du Cygne, etc., etc. Donc on va peut-être pouvoir retrouver des étoiles de ces constellations sur les photos du halo lumineux. Alors, évidemment, quand on a des photos du halo lumineux, on a que ça. Évidemment, ça serait trop facile d'avoir sur les photos le nom directement des étoiles. Là, je vous mets au défi de tout de suite trouver où ça se passe dans le ciel. Pas forcément évident. Mais on a aussi un site d'astronomie sur le net. Ça, c'est génial. Tout encore gratuit. Donc, astrométrie.net. Il suffit de mettre une photo où on a beaucoup de points. Même à quelques points, il sait identifier les étoiles. Alors là, c'est génial. Donc, en quelques secondes, on passe cette photo à la moulinette et regardez le résultat en bas. On a des lignes vertes, du plus bel effet, avec des sigles tout à fait bizarres. Regardez ici, 20 AQL, 26 AQL, scutum, enfin scutum. Pour ceux qui parlent latin, scutum, c'est l'écu ou le bouclier. Et ici, nous avons AQL. Pour les amateurs d'astronomie, en fait, tous ces petits trigrammes sont des résumés des noms des constellations en latin. AQL, pour tout astronome qui se respecte, c'est la constellation de l'aigle. En latin, Aquila. Et ici, SCT, scutum, c'est l'écu. Constellation de l'aigle. Mais on n'avait pas parlé de la constellation de l'aigle il y a quelques instants pour la trajectoire de la fusée. Mais si. L'aigle est ici. Et l'écu, scutum, est ici. Tiens. Sur une deuxième photo, alors là, il y avait encore plus d'étoiles. Et là, après coup, je me suis mordu les doigts parce que je me suis rendu compte que j'aurais pu être capable d'identifier les étoiles presque du premier coup d'œil sur cette photo. Pourquoi ? Là, évidemment, il y a plein d'étoiles, donc évidemment, comme le logiciel a reconnu toutes les étoiles, alors là, on en a plein. Donc VUL, c'est le diminutif de Vulpecula, le petit renard. Et ici, dans le bas, nous avons CYG, SIG, c'est le diminutif de Cygnus, le cygne. Tiens, encore deux constellations concernées par la trajectoire de la fusée Falcon 9. Très intéressant. Et c'est là, au moment où le logiciel m'a identifié les étoiles, que je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Parce qu'il y a un petit détail sur une des images. Le petit détail, il est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, il y a un petit groupement d'étoiles que tous les astronomes amateurs adorent, qui est visible aux jumelles, un peu à l'œil nu, mais bon, il faut vraiment savoir où il est. Mais aux jumelles, on le voit très bien. Alors, c'est l'amas Colinder 399, plus connu sous son surnom rigolo de amas du cintre. Est-ce que je dois vous expliquer pourquoi on l'appelle l'amas du cintre ? Je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle l'amas du cintre. Regardez les étoiles les plus brillantes. Une espèce de point d'interrogation ici. Et ici, une ligne d'étoiles. Comme un cintre. C'est incroyable. Donc ça veut dire que le halo lumineux, le cintre est ici. Je ne vais pas casser le matériel. Le cintre est ici, l'amas du cintre est ici, le halo lumineux est là. Et ici, nous avons toute une série de photographies qui montrent que le halo lumineux est passé, vu depuis Saint-Denis de la Réunion, sur ce cintre. Il s'est fait cintrer, sans mauvais jeu de mots. Donc, première photographie d'une série prise par un amateur réunionnais. Donc ça se voit pas très bien. Évidemment, les images sont un peu floues parce que le photographe qui a vu ça déjà était impressionné par le halo lumineux. Donc quand il a pris les photos, évidemment, il n'a pas fait des belles photographies. Mais on voit quand même les étoiles. Le cintre est ici. Sur la deuxième image, il est ici. Voilà. On voit que là, ici, le trépied de l'appareil photo n'a pas bougé entre ces deux images. Première photo, deuxième photo. Là, on voit bien un effet de déplacement. Dernière image. Mais regardez surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, sur ces quatre photos, on commence à voir le phénomène de disparition. Au départ, le halo lumineux était bien rond. Regardez cette partie-là, qui disparaît petit à petit d'une photo à l'autre. Voilà. c'est déjà raboté. Quelques secondes plus tard, ça se rabote encore plus. Et dernière image avant disparition. Là, il y a déjà plus de la moitié qui a disparu et c'est vraiment très fade. Et quelques secondes plus tard, il n'y avait plus rien. Très très intéressant. Puisque ça nous permet de déduire la trajectoire précise du halo lumineux par rapport aux étoiles. Et on sait que, je vais vous montrer, je vais revenir un peu en arrière, sur la carte du ciel. Bon, évidemment, ça ne se voit pas sur cette carte, mais il faut savoir justement que l'amas du cintre qui sert de repère est pile ici. Il est pile sur la trajectoire de la fusée Falcon 9. Ce qui veut dire que le halo lumineux, la trajectoire du halo lumineux, passe exactement sur la trajectoire de la fusée à la seconde près. Donc, conclusion de la deuxième méthode, cela veut dire que la trajectoire du halo par rapport aux étoiles, vue depuis l'île de Larion, correspond exactement à celle de l'étage de fusée Falcon 9. Et que la zone de disparition du halo près de l'étoile Albireo, dans le Cygne, correspond exactement à celle de l'étage de fusée Falcon 9 qui est entré à ce niveau-là dans l'ombre de la Terre. Et les horaires correspondent. Donc, je vous laisse déduire, puisque trajectoire, horaire, description, tout colle. Mais qui est Nabila? Oh non, il ne fallait pas l'inviter, Nabila.
Elle en pense quoi, Nabila?
Très bonne question. Je ne sais pas. Elle pense que l'explication est tirée au couteau. Mais... Pardon. Je m'étais promis de ne pas la faire. Mais... Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, je dirais que l'hypothèse explicative est largement validée. Donc, ce qui veut dire qu'avec deux méthodes de vérification, on arrive toujours au même résultat. Alors, il se trouve que, pour la petite anecdote, quelques jours après l'observation, donc le 10 octobre 2013, vu depuis la station spatiale qui survolait à ce moment-là la Russie, il y a eu un tir de missile, et le missile a largué son carburant arrivé dans l'espace près de la station spatiale, et ça formait encore un halo lumineux pendant quelques minutes. Et c'est joli. Et donc, conclusion générale pour l'étude du cas. Donc le phénomène observé ressemble à un largage de carburant de fusée. Il se trouve que la trajectoire du halo dans le temps et par rapport aux étoiles correspond exactement à celle de la fusée Falcon 9 lancée une heure plus tôt. Un largage de carburant était en cours pour cette fusée, encore des éléments qui collent. La zone d'observation, on l'a vu, du halo correspond à la zone de visibilité de l'étage Falcon 9. Le halo lui disparaît en cours de trajectoire, exactement là où l'étage Falcon 9 entre dans l'ombre de la Terre. Ça, c'est vraiment le détail qui tue, mais c'est vraiment le détail qui permet de conclure. Une reconstitution sur logiciel permet de retrouver les éléments de l'observation du halo. Et je vous rappelle, tous les logiciels sont gratuits. Et l'identification des étoiles sur les photos du halo permet de reconstituer sa trajectoire et donc vérifier si ça colle bien par rapport à celle de la fusée. Donc, conclusion, l'observation du halo lumineux dans le sud de l'océan Indien correspond bien à un largage de carburant de la fusée Falcon 9. Et voilà. J'espère.